La science CQFD, Natacha Triou.
Elle est peut-être la plus mystérieuse des planètes de notre système solaire. Et si nous partions explorer Uranus ? La NASA et la Chine envisagent une mission vers l'une des plus lointaines planètes de notre système, la 7e, l'une des dernières. Longtemps ignorée, nous ne lui avons rendu visite qu'une seule fois, avec le rapide survol en 1986 de la sonde Voyager 2. Cette géante de glace, aux caractéristiques surprenantes, reste mal connue. Quelles sont les grandes questions scientifiques qui se posent pour que qu'on entreprenne un tel voyage à deux doigts d'Uranus ? Bonjour Léa Gritton.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Sorbonne Université et chercheuse Olésia à l'Observatoire de Paris. Avec nous également Thierry Fouché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sorbonne Université et chercheur vous aussi Olésia à l'Observatoire de Paris. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. Vous pouvez également suivre cette émission sur notre fil Twitter @sciencesqfd où est posté tout au long de cette heure les sources et articles cités durant cette discussion. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de cette planète très lointaine, mal comprise, mais célèbre pour sa couleur bleue. Nous allons le voir, de nombreuses questions restent ouvertes et des incertitudes demeurent. Écoutons comment nous concevions cet astre en 1986. Nous venions tout juste de lui rendre visite.
Voyager 2, la sonde américaine, donc, s'éloigne d'Uranus. Mission accomplie. À plus de 50 000 km à l'heure, elle fonce maintenant vers Neptune, avec laquelle elle a rendez-vous en août 1989. Sa rencontre avec Uranus, les photos prises et retransmises à la Terre, représente un exploit technique et scientifique dont les pauvres terriens que nous sommes n'ont pas une véritable idée, mais qui fait le bonheur de tous les spécialistes. Hubert Rive, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de ceux-là en tant que chercheur du CNRS et astrophysicien. Et pour vous, ce passage de Voyager 2 à 80 000 km environ d'Uranus et ces photos sont, pour l'astrophysicien que vous êtes, un véritable événement.
Oui, c'est l'exploration de la grande banlieue du système solaire qui commence. Nous connaissons très peu de choses sur ces planètes lointaines. De Jupiter, de Saturne, on avait déjà des photos. D'Uranus, à peu près rien. Et là, on a l'impression de voir un domaine qui nous était complètement fermé et de regarder de près des choses dont on ne connaissait l'existence que d'une façon, en tout cas, pas du tout visuelle.
C'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est un nouveau monde que nous découvrons.
Oui, voilà, c'est ça. Nous regardons des choses dont nous n'avions pas la moindre idée. Et nous collectionnons des renseignements. Il y a plusieurs choses étonnantes. Par exemple, cette façon qu'a Uranus d'avoir son axe de rotation couché sur l'orbite. Elle est tout à fait unique en ce sens. Toutes les autres planètes ont un axe de rotation qui est perpendiculaire à l'orbite. Et maintenant, nous apprenons que son axe magnétique n'est pas le long de l'axe de rotation. C'est un peu comme si le pôle nord de la Terre était situé, par exemple, au niveau de la Sicile ou de la Grèce. Alors, vous voyez, pour les boussoles, ça, c'est un véritable problème. Pourquoi, par exemple, Uranus a-t-elle cet axe de rotation tout à fait décalé par rapport à l'axe magnétique, une chose assez unique à laquelle nous ne connaissons pas d'autres exemples? C'est un problème, c'est une question qui est fascinante.
Un nouveau monde et la voix d'Hubert Reeves. Une réaction à cet archive de 1986, Léa Gritton?
Moi, ce qui m'émeut toujours quand je pense à ce survol de Voyager 2, c'est de me dire que à l'époque, moi, j'étais même pas née et qu'en fait, depuis, on n'a pas avancé beaucoup puisqu'on n'a pas de missions qui ont été retournées voir Uranus. On a quelques images à distance, mais de satellites, mais sinon, on n'a rien à se mettre sous la dent, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours très émouvant d'écouter ce genre d'archives.
Thierry Fouché.
Oui, puis ça fait penser que maintenant Voyager est sorti du système solaire et que donc ça fait le chemin qu'elle a parcouru vraiment extraordinaire et ça fait monter que depuis ce temps-là, tout le chemin qu'a parcouru Voyager, on n'est pas retourné voir Uranus. Alors qu'on est parti voir Jupiter, qu'on est parti voir Saturne avec des missions très importantes.
Et la difficulté avec Uranus, c'est que même avec le plus gros télescope terrestre, Uranus apparaît comme un petit disque bleu verdâtre sur lequel on ne discerne aucun détail. Donc l'essentiel des données que l'on possède viennent de la sonde Voyager de Thierry Fouché.
Oui, c'est l'essentiel. Alors, on voit quand même quelques détails avec les télescopes. Par exemple, le VLT, on peut résoudre Uranus et voir des
Very
nuages.
Very Large Telescope
qui est au Chili, qui est de l'Observatoire européen austral, qui donc permet de quand même tout à fait de voir, de résoudre Uranus et de détailler des nuages, de mesurer la vitesse des vents à la surface, dans l'atmosphère d'Uranus, de voir comment ces nuages se déplacent. Mais par contre, par exemple, le JWST, donc le James Webb Télescope qui vient d'être lancé, va pouvoir pour la première fois avoir des images résolues dans l'infrarouge. Dans l'infrarouge à 10, vers aux alentours de 10 microns en longueur d'onde, on n'a pas d'image en infrarouge. Donc la température, résoudre la température d'Uranus, on n'a pas fait ça depuis Voyager.
La NASA va donc lancer un très gros projet, le Uranus Orbiter and Probe, dont le coût est estimé à 4 milliards d'euros quand même. En quoi consiste ce projet, Léa Gritton ?
Donc l'idée, c'est enfin de retourner sur Uranus et surtout d'y rester. Donc c'est le principe d'un orbiteur, c'est que contrairement à Voyager qui a juste survolé la planète, là on va rester en orbite autour d'Uranus pendant, alors je crois que c'est au moins un an terrestre. Et donc voilà, c'est exactement comme si au lieu de survoler, je sais pas moi, vous rêvez d'aller voir Tokyo, si vous le survolez en avion, bon certes vous avez vu certains monuments, c'est pas pareil que d'y passer un an. Voilà, donc là, c'est exactement ce principe-là qu'on essaye de faire.
C'est encore donc à l'état de projet, hein. Les budgets n'ont pas été tout à fait votés, mais quel type d'instrument pourrait être embarqué à bord de cet orbiteur ?
Alors, effectivement, ça, c'est bien que vous le disiez, les budgets ne sont pas encore votés. Donc là, nous, on espère que tout va bien se passer de ce côté-là. L'idée, donc, c'est de préparer un orbiteur qui serait muni des instruments qui permettent d'étudier justement toute la planète dans son ensemble, donc des caméras, des spectroscopes, un magnétomètre, des analyseurs de particules. Et surtout, et ça on l'oublie un peu, mais c'est une contribution qui serait potentiellement de l'Agence spatiale européenne, donc très importante pour nous, puisque ça nous permet en tant que chercheurs français d'avoir un vrai rôle dans la mission. Et donc cette contribution de l'Europe, ce serait une sonde de rentrée atmosphérique, et donc ça c'est un véritable défi. Qui resterait, alors après 13 ans de voyage et 20 ans de préparation, qui ne resterait que 6 minutes dans l'atmosphère d'Uranus avant d'être écrasé, mais qui en 6 minutes récolterait des données absolument inédites sur la composition de l'atmosphère de cette planète.
Et c'est un peu le même modèle, le même schéma, une sonde kamikaze, un peu comme la mission Cassini de Saturne.
Oui, alors et en plus sur le plan des financements, ce serait exactement la même chose, donc une grosse contribution NASA pour l'orbiteur principal. Donc ça, vos auditeurs seront contents de savoir que la majorité des impôts, ce seront les Américains qui vont les payer. Et ensuite, pour la contribution européenne, donc cette petite sonde de rentrée atmosphérique. Voilà. Après, les instruments eux-mêmes, et c'est ça qui est formidable avec ce genre de collaboration, c'est qu'ils peuvent être, par exemple, français, même sur la sonde américaine. Parce que, par exemple, sur BP Colombo, c'est moi mon instrument, enfin notre instrument, il est sur la sonde japonaise de BP Colombo. Donc c'est vraiment une grosse collaboration internationale qui se prépare et qui, comme je le disais, va permettre vraiment d'étudier tout le système de la planète. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle la NASA a sélectionné ce projet-là par rapport à d'autres, c'est que ça permet de vraiment faire travailler toute la communauté planète et héliosphère, donc interaction avec notre étoile par exemple. Voilà.
C'est une mission avec de grands enjeux et de grandes difficultés, hein, et notamment la difficulté majeure de cette mission, c'est la distance. Uranus, très très loin, hein, depuis Uranus, le Soleil ressemble juste à une grosse étoile.
Oui, alors Uranus, c'est 19 unités astronomiques. Donc l'unité astronomique, pour nos auditeurs, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc ça veut dire qu'elle est 19 fois plus loin du Soleil que la Terre. Ça fait à peu près 3 milliards de kilomètres. Et donc, il faut propulser, donc sortir de l'attraction gravitationnelle de la Terre, une sonde qui ferait autour de 5 tonnes, 5 tonnes et demie. C'est pas beaucoup, hein. Le Solar Orbiter, par exemple, c'est 7 tonnes, donc c'est qu'une seule sonde, il n'y a pas la sonde de rentrée atmosphérique dessus. Donc, il faut propulser cette masse-là de la Terre et ensuite l'envoyer à ces grandes distances. Et donc, pour ça, on a plusieurs scénarios, et c'est aussi un avantage de cette mission par rapport à d'autres projets. On peut la lancer à différents moments, mais il faut calculer pour pouvoir profiter de la présence de Jupiter, par exemple, ou même de Vénus, pour faire ce qu'on appelle de l'assistance gravitationnelle et prendre de l'élan, qui vont nous propulser beaucoup plus loin. On a quand même 13 ans de minimum, hein, parce que justement, si on passe par Vénus, c'est plutôt 15 de phase de croisière. Un lancement à partir de de 2031, si je ne me trompe pas, du mois de juin 2031. Donc voilà, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les premiers doctorants qui vont pouvoir, les premiers étudiants qui vont pouvoir faire leur thèse avec ces données, bah, ils ne sont pas nés encore. Donc ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur du projet auquel on s'attaque.
Oui, puis on est face en fait à une mission cathédrale.
Oui.
En fait, où on voit des décennies, où les agences spatiales vont devoir gérer les choses sur deux décennies, même sur le plan humain.
Sur le plan humain, c'est très intéressant. Moi, j'adore. Hein. C'est comme Bepi Colombo. Bepi Colombo, c'est une mission qui est donc vers Mercure, qui a été pensée il y a plus de 20 ans et qui arrive sur Mercure autour de Mercure en 2025. Là, c'est le même genre de projet. Hein. Quand on était donc au dernier meeting où on s'est rassemblés tous avant le Covid, il y a une personne de la NASA qui, à un moment, a dit « Mais qui est-ce qui est né, qui est-ce qui a moins de 30 ans ici ?» On était trois à lever la main. Et cette personne a dit « c'est les trois qui pourront encore justement avoir des étudiants quand la mission va arriver. » Donc c'est vraiment un projet à très long terme. Et c'est ça qui est formidable, c'est que nous, la plus jeune génération, on profite de tout le savoir et de toute l'expérience de nos collègues qui travaillent dessus depuis 20 ans, voire plus, enfin depuis Voyager 2 en fait. Et donc il y a vraiment cette notion de transmission qui est absolument formidable.
Une mission ambitieuse, mais pas pour tout de suite, hein, pas avant 2044, hein, une arrivée sur place 2044 ou 2053. Les États-Unis, la Chine entrent dans cette nouvelle course à Uranus. Vous, Léa Gritton, vous avez participé à écrire des articles pour justifier une telle mission. Quels ont été vos arguments ?
Moi, mon argument, c'est que... Donc moi, j'ai travaillé sur la magnétosphère d'Uranus, donc on en parlera en fin d'émission, mais grosso modo, c'est comment cette planète réagit au vent solaire qui vient du Soleil. Et en fait, Uranus, c'est une situation extrêmement différente de tout ce qu'on a sur toutes les autres planètes. Donc il faut imaginer que, certes, ça va être loin, ça va être long, mais en fait, c'est un territoire sur lequel tout est nouveau. Tout va être différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et donc, sur le plan de la physique fondamentale, ça va être passionnant parce qu'on va se retrouver dans des environnements où il faut qu'on se remette en question toute la physique qu'on connaît jusqu'à présent. Alors, la physique est la même, hein, les équations, ça ne change pas, c'est universel, mais la façon les hypothèses qu'on peut faire, la façon de traiter notamment les problèmes en fonction du temps. Donc on va en reparler après des questions scientifiques, mais il faut vous dire que c'est vraiment un environnement où tout va être nouveau. Donc on va avoir que des surprises. Des bonnes, j'espère, mais tout reste à faire.
Par rapport aux avantages d'une telle mission, Thierry Fouché, votre point de vue ?
Alors moi, je ferai le parallèle avec la mission Cassini, qui est aussi, donc tu l'as déjà fait, une mission européano-américaine, à la fois dans la durée, parce que donc Voyager avait survolé le système de Saturne et donc la Lune Titan en 1981-82, et les scientifiques tout de suite avaient vu que c'était passionnant et avaient voulu faire une nouvelle mission pour aller vers Titan. Et donc la mission Cassini a débuté dans les années 1980 également, avec Daniel Gauthier côté européen et Tobias Owen côté américain, et est finalement arrivé autour de Saturne en 2004. Alors c'est juste 20 ans, parce que c'est un peu plus proche, mais on voit que ces missions-là se passent en échelle de décennies. Hein, c'est pareil, ça sera pareil pour Uranus. Et d'un autre point de vue, je trouve aussi que Cassini et la mission vers Uranus auront le commun de vouloir explorer complètement ensemble le système. Pas juste la planète, mais effectivement sa magnétosphère, ses anneaux, ses satellites, et que l'un à l'autre apporte la compréhension. Que regarder les satellites de Saturne nous ont permis de comprendre l'intérieur de Saturne. Et que regarder les satellites de Saturne nous ont permis de comprendre l'âge des anneaux. Et pareil, on pourra peut-être faire plein d'analogies et comprendre globalement l'ensemble du système d'Uranus en regardant chacun de ces éléments. Et ça n'a encore jamais été fait.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h14 sur France Culture avec Léa Gritton et Thierry Fouché. Nous parlons d'Uranus. Nous venons de parler de la future mission de la NASA qui vise cette planète très lointaine. Elle est à 2,8 milliards de kilomètres du Soleil. Sa période de révolution est de 84 ans. Ça veut dire qu'on fête le nouvel an tous les 84 ans. Les Uranusiens ont de la chance. Alors pourquoi Uranus est-elle peu connue comparée à Jupiter ou Mercure ? C'est vraiment une question de distance ?
Déjà, Mercure finalement est pas si... Enfin, Mercure a eu au moins un orbiteur. Saturne et Jupiter aussi. Donc en fait, à chaque fois, c'est des missions qui, comme je vous le disais, comme on reste sur place pendant un certain temps, on peut étudier les choses sur... Enfin, déjà, on a plus de données, surtout sur le champ gravitationnel, sur le champ magnétique, sur la composition, alors pour Mercure de la surface et puis pour les géantes gazeuses et glacées des atmosphères. Mais effectivement, Uranus, c'est donc une planète qui est très loin. On l'a découverte d'ailleurs tardivement parce qu'elle était pas, enfin, elle est très difficilement visible à l'œil nu. À l'œil nu, elle ressemble à une étoile, donc bon, on n'avait pas forcément capté que c'était une planète avant. Et donc, comme elle est très loin, on la voit beaucoup moins bien depuis la Terre. Alors Neptune, c'est encore pire, mais grosso modo, c'est pour ça.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des moins bien comprises de notre système solaire ?
Oui, avec Uranus et Neptune sont les moins bien comprises de notre système solaire, au terme de compréhension de leur intérieur, de la dynamique de leur atmosphère, de leur météorologie, de leur climat, de l'évolution de leurs anneaux. Uranus et Neptune sont effectivement beaucoup moins bien comprises que maintenant le sont Jupiter et Saturne. Et
c'est comme si nous avions des exoplanètes à l'intérieur de notre système solaire, presque.
Oui, alors on dit souvent qu'Uranus pourrait être un archétype des exoplanètes, parce qu'il y a beaucoup de Neptune, d'exoplanètes qui ont à peu près la masse de Neptune ou d'Uranus. Aller explorer dans notre système solaire cette planète de cette masse-ci, 14 fois la masse de la Terre à peu près, ça permettrait d'essayer de pouvoir comprendre comment fonctionne une exoplanète de plus près. Alors après, les exoplanètes en général sont quand même un petit peu plus chaudes qu'Uranus et Neptune, parce qu'un peu plus proches de leur étoile.
Alors vous avez évoqué une découverte tardive, Léa Gritton. Comment, un mot justement sur l'histoire de cette découverte, comment a-t-elle justement été découverte tardivement ?
Moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter parce que donc c'est une famille qui découvre cette planète par le biais d'un monsieur qui s'appelait William Herschel. Alors, c'était une famille de musiciens allemands, donc rien à voir au départ, qui, en fait, c'était des astronomes amateurs, qu'on dirait aujourd'hui. Et donc, William Herschel, au mois de mars 1781, remarque que cette étoile, donc, n'est plus à la même position par rapport aux étoiles fixes voisines. Donc, au début, il pense que c'est une comète. Finalement, il se rend compte que c'est pas une comète parce qu'il y a d'autres scientifiques qui font des calculs qui disent, mais non, si c'est une comète, elle devrait tourner beaucoup trop loin du soleil, c'est pas possible, etc. Puis, donc, finalement, il met un peu de temps, mais il finit par écrire à la Royal Astronomical Society pour dire, écoutez, j'ai peut-être découvert une planète. Et donc, à partir de là, c'est la gloire. Il devient astronome royal, alors que bon, il était, voilà, musicien sans le sou. Enfin, j'exagère peut-être, mais voilà, il était pas très riche. Et donc, j'aime bien dire que c'est quand même une histoire de famille, parce qu'ils faisaient tout ce travail avec un de ses frères et surtout sa sœur, Caroline Herschel. Et donc, là aussi, j'aime bien raconter cette histoire, parce que grâce à cette découverte et grâce au fait que William soit devenu astronome royal, William a obtenu une pension. Et il a eu la présence d'esprit de demander également une pension pour sa sœur, qui l'aidait dans tous ses travaux. Et donc, grâce à Uranus, quelque part, Caroline Herschel est devenue la première femme à être rémunérée pour une activité de recherche de toutes les disciplines confondues, en fait. Il y avait eu une professeure d'université italienne avant, mais c'était pour de l'enseignement. Et donc là, voilà, c'est le côté féministe qui parle, mais j'aime beaucoup cette famille Herschel, justement pour ça.
L'histoire d'Uranus, la première femme rémunérée pour ses recherches, la première planète à avoir été identifiée avec un télescope. Pourquoi, est-ce qu'on sait pourquoi ce nom d'Uranus ?
C'est dans l'ordre des dieux, voilà. Donc après Jupiter, Saturne, les Titans, c'est pas un dieu, c'est un Titan. Uranus dans l'ordre des.
Alors au début, en plus, elle s'appelait parce que donc, Herschel était un génie sur le plan des recherches de financement. C'est un exemple pour nous tous. Donc au début, il l'avait appelée Planète George parce que c'était le nom du roi de l'époque. Puis après, on l'a appelée. Les Français l'appellent Planète Herschel pendant un certain temps. Et finalement, donc, elle a fini par s'appeler Uranus.
Mais il paraît que justement, ce nom, ça n'a pas forcément joué en sa faveur.
Oui, alors ça, c'est une grosse blague, mais que tout le monde nous fait. Moi, d'ailleurs, quand je parle d'Uranus dans des talks en anglais, je fais exprès de prononcer ça avec un accent plus français, on meurt. Parce que donc, en anglais, ça sonne, pour les auditeurs qui n'auront pas suivi, mais ça sonne comme votre anus. On s'est même demandé à un moment si la NASA n'envoyait pas de sonde vers Uranus parce qu'elle ne voulait pas écrire noir sur blanc « We send a probe to Uranus ». Donc, c'est des sujets de blagues éternelles. Après, on a de la chance, hein, on est une génération aussi de scientifiques qui avaient beaucoup de sens de l'humour, donc nous on s'en fiche un peu d'avoir ce nom.
Oui, il paraît que justement que c'était des blagues et que du coup il y avait quelque chose où cette planète était délaissée, méprisée à cause de ces consonances-là. Enfin, voilà, c'était.
Oui, il y a eu un appel là, d'un des comptes Twitter, pas vraiment officiel, mais qui suit les projets de mission vers Uranus et Neptune, qui a donc appelé les personnes sur Twitter à proposer des noms pour la mission. Et ils ont finalement fait deux catégories, les noms sérieux. Et puis de l'autre côté, dans les autres noms, il y a par exemple les inventeurs de la coloscopie. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Il faut beaucoup d'humour pour cette mission spatiale.
Alors depuis sa découverte en 1780 par William Herschel, que sait-on, que connaît-on de cette planète? Quel est son type, Thierry Fouché?
Alors, c'est une planète géante, puisqu'elle est beaucoup plus grande que la Terre, elle est beaucoup plus massive que la Terre ou que les planètes telluriques. Mais c'est une géante qu'on qualifie en général de glacée, un peu différente, dans une catégorie différente que celle de Jupiter et de Saturne, qui sont principalement des géantes gazeuses, avec donc la majeure partie de leur masse est sous forme de gaz, d'hydrogène et d'hélium, tandis que Uranus et également Neptune, la majeure partie de la masse de ces deux planètes est plutôt sous forme soit de glace, soit de roche. Et la partie gazeuse, hydrogène et hélium, c'est environ 10%, 10-15% de la masse totale. Donc elles sont quand même un petit peu différentes de Saturne et de Jupiter.
Pour compléter cette définition, Léa Gritton, quand on parle de géantes de glace, on a parfois l'image d'une grosse boule de neige. Qu'est-ce qu'on appelle justement des géantes de glace?
Bah alors justement, on en parlait avec Thierry avant de commencer l'émission. Ce qu'il faut vraiment comprendre, donc on dit géante glacée parce que alors déjà nous en astrophysique, on aime bien l'hélium et l'hydrogène parce que c'était les gaz principaux qui étaient là au moment de la naissance du Soleil, qui lui-même d'ailleurs est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. Et donc là, l'idée, c'est que en fait, quand on regarde la masse de Uranus par rapport à son volume, on se dit qu'on peut pas avoir que de l'hydrogène et de l'hélium, donc elle a forcément une composition faite d'éléments plus, on dit, lourds, enfin plus gros, que de l'hydrogène et de l'hélium. Et comme elle est très loin et que donc elle est à un endroit où les matériaux seraient sous forme de glace, enfin, comme elle est très loin et qu'il fait très très froid, du coup on parle de géante glacée. Après, justement, c'est pour ça qu'on va envoyer cette mission. En fait, on n'en sait vraiment pas grand-chose de ce qu'il y a à l'intérieur, donc on a besoin d'aller faire des mesures plus précises du champ de gravité, de gravitation, pardon, de cette planète pour justement mieux comprendre sa composition.
C'est-à-dire que les planétologues divisent en trois classes les matériaux dont sont constituées les planètes géantes, hein, gaz, glace et roche.
Oui, exactement. Et puis, je ne sais pas, Thierry, si
oui, c'est ça. Oui. Donc les roches, c'est principalement des silicates. Hein, voilà. Et puis après, les glaces. Alors les glaces, c'est pas forcément juste de l'eau. Ça, c'est important. Il y a d'autres choses qui peuvent former des glaces. On peut former de la glace d'ammoniac, de la glace de méthane, de la glace de monoxyde de carbone, du CO. Et puis après, les gaz, c'est principalement effectivement hydrogène et hélium.
Alors donc une planète où il y a moins d'hélium et d'hydrogène que les autres géantes gazeuses, comment ça on le sait? Comment on connaît la composition d'Uranus?
Alors on la connaît par spectroscopie, c'est-à-dire que donc on observe le rayonnement réfléchi, le rayonnement solaire réfléchi par la planète et ou le rayonnement émis par la planète. Et à sa surface, donc on voit dans le spectre, on a les signatures des éléments chimiques qui constituent l'atmosphère. Donc on a détecté l'hydrogène, on a détecté l'hélium, on a détecté l'ammoniac et le méthane. C'est à peu près tout ce qu'on a détecté sur Uranus. Après, pour savoir qu'il y a d'autres éléments à l'intérieur, ça c'est la gravimétrie, comme le disait Léa, c'est que on s'aperçoit, d'abord on connaît la masse. Alors comment on connaît la masse d'une planète? C'est parce qu'il y a des satellites qui tournent autour. Donc on arrive à connaître la masse de n'importe quel objet grâce à ce qui tourne autour, que ce soit un astéroïde, que ça connaît la masse de notre Terre grâce à la Lune qui tourne autour et ainsi de suite. Donc on connaît la masse d'Uranus et on s'aperçoit que si on met que de l'hydrogène et de l'hélium, dans le volume, ça ne va pas marcher, ça ne va pas faire la masse. Donc on suppose qu'il y a des éléments plus denses, et donc par exemple des roches ou de la glace d'eau et d'autres glaces qui sont plus à l'intérieur, qui sont plus denses et qui apportent plus de masse et qui font qu'elle est plus massive que ce qu'on observe à l'extérieur.
En fait, si je peux me permettre, si pour l'instant, disons qu'on a l'impression que c'est un gâteau au chocolat, ce que j'aime bien expliquer à mes étudiants, et que ça se trouve avec la sonde de rentrée atmosphérique, on va se rendre compte que c'est un glaçage au chocolat, mais qu'en dessous, c'est un fraisier, par exemple. Vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est que pour l'instant, on a des notions que de ce qui se passe à la surface, et globalement, la masse du gâteau. Mais on n'a pas le détail de quelle couche contribue de telle ou telle manière à la masse de la planète et à ses effets sur son environnement.
Et Thierry Fougère, vous avez évoqué son volume. En termes de volume, justement, ça fait combien Uranus par rapport à la Terre ?
Bah, ça fait à peu près, une centaine de fois la Terre à peu près en volume.
Le rayon est 4 fois plus grand. Voilà. Donc après, il faut faire un calcul.
64, quoi. Donc.
Ouais, voilà.
Alors, on évoque en effet sa composition chimique, mais est-ce qu'on sait comment est constitué l'intérieur d'Uranus ? Est-ce que je peux vous demander de décrire le modèle standard de la structure de cette planète, Thierry Fougère ?
Alors, il y en a un petit peu deux, en fait. On n'est pas complètement là. On le sait de deux manières. Donc, il y a la gravimétrie. Gravimétrie, ça veut dire essayer de mesurer le champ de gravité de la planète et surtout comment il varie en fonction de la latitude. Et la deuxième méthode, c'est effectivement aussi le champ magnétique qui donne des indications sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, les données de Voyager sont assez partielles. Voyager est passé, les barres d'erreur, comme on dit dans notre langage, sont assez grandes. Donc il y a des incertitudes assez grandes sur cette gravimétrie, ce qui fait qu'on peut passer plusieurs modèles à l'intérieur. Donc il y a un peu deux modèles qui se battent. Il y en a un où ce serait effectivement plus ou moins trois couches avec beaucoup de roches au centre, après de la glace autour, et puis après une enveloppe d'hydrogène et d'hélium. Donc là, c'est presque plus une géante rocheuse. Qu'une géante glacée. Et puis, il y a aussi l'autre modèle qui était celui initial, qui était effectivement que c'est plutôt un mélange principalement de glace, avec un petit peu aussi de roches mélangées et tout ça, et puis de l'hydrogène à l'extérieur.
Oui, dans le premier modèle que vous évoquez, le centre, on trouverait probablement donc un noyau rocheux.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est un peu comme au centre de la Terre, c'est-à-dire que on a des roches jusqu'au centre de la Terre, et puis au fur et à mesure, effectivement, la pression, la densité, la température augmentent, et l'état de la matière change un petit peu. Quoi.
Ouais, donc c'est ça qui est formidable. C'est un peu comme dans Jupiter ou Saturne, c'est que les chercheurs, donc c'est ni Thierry ni moi, mais les collègues qui étudient les intérieurs planétaires, ce qui est formidable, c'est qu'ils se retrouvent à chercher ce qu'on appelle des équations d'état. Donc c'est comment on décrit un état de la matière. Par exemple, à l'école, on apprend PV égale NRT là, pour les gaz parfaits. Là-bas, c'est pas des gaz parfaits dans un labo à 25 degrés. Quoi. Donc il faut vraiment réfléchir à comment on relie la température, la pression. Et donc en fait, on fait de la nouvelle... Enfin, c'est pour ça que je dis de la nouvelle physique. C'est les mêmes lois de la physique, mais on réécrit des équations différentes qui sont adaptées à ces milieux si extrêmes. Et ça a forcément ensuite des retombées. Alors, pas pareil, c'est pas nous qui allons les trouver, ces retombées, mais c'est pour ça que c'est de la recherche fondamentale. C'est que ça nous pousse dans nos retranchements de ce qu'on connaît de la physique, de la matière, des états de la matière. Et donc ça, ensuite, ça peut très bien avoir des répercussions plus tard sur Terre pour étudier des nouveaux concepts. Voilà, comme c'est un laboratoire. Il faut vraiment voir Uranus comme un laboratoire géant, mais très différent de chez nous. Quoi.
Voilà, vous évoquez justement ces milieux extrêmes de la physique nouvelle. Il y a une étude récente parue l'année dernière dans Nature Physics où justement les scientifiques se demandent d'ailleurs si on ne pourrait pas y trouver sur Uranus de nouveaux états de la matière, notamment avec la glace supérionique.
Oui, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de la glace supérionique, mais c'est vraiment cette idée-là. C'est
la glace chaude.
Voilà, et donc en fait, ça, pour le coup, il y a des chercheurs actuellement donc sur Terre, dans leur laboratoire, qui essayent de reproduire ces états de la matière, pour voir ce qui, justement, serait possible ou pas, et donc ensuite l'appliquer plus tard à l'intérieur d'Uranus ou de Neptune, si on a des mesures plus concrètes. Et donc ça, effectivement, il y a notamment des thèses qui sont en cours, sur ces questions-là de comment on fait de la matière dans ces états, parce que c'est une pression énorme, du coup. Est-ce qu'on dit un corps rocheux, mais voilà, nous, en 6 minutes, avec la sonde de rentrée atmosphérique, on n'ira pas bien loin, parce que la pression va être tellement énorme très vite que ça va écraser la sonde. Donc voilà, c'est...
Thierry Fougère, qu'est-ce qu'on peut dire également, qu'est-ce qu'on sait de sa dynamique atmosphérique ?
Alors, on sait que... À l'équateur, les vents sont rétrogrades. Alors, ça veut dire quoi, rétrograde? Ça peut comme les alizés sur Terre. C'est-à-dire qu'ils tournent dans le sens inverse de la rotation de la planète. Donc, ils vont d'est en ouest. Ce qui est différent des autres planètes géantes, parce que sur Jupiter et Saturne, c'est le contraire. Les vents sont prograds, ils vont d'ouest en est, ils vont dans le même sens que la rotation de la planète. Ils font que localement, ça tourne un peu plus vite. Aussi, quand on regarde l'apparence d'Uranus et puis aussi de Neptune, il n'y a pas les bandes, des bandes brillantes et des bandes sombres comme on peut voir très bien sur Jupiter et un peu moins, mais elles sont aussi présentes sur Saturne. Là, c'est beaucoup moins de bandes. Il y a une grosse région à l'équateur où ça va dans un certain sens. Et puis après, quand on se rapproche des pôles, les vents deviennent comme dans nos régions tempérées sur Terre, plutôt dans le sens prograde, c'est-à-dire que c'est des vents d'ouest qui soufflent majoritairement. Alors pourquoi Ça, y a pas de modèle pour l'instant encore qui l'explique correctement. Hein. Ça, c'est une grande question. La grande question qu'on a aussi, c'est ce vent qu'on observe, jusqu'à quelle profondeur va-t-il ? Parce qu'à un moment, on a parlé de l'intérieur. L'intérieur devient plus solide, ionisé. Donc, il va être entraîné par le champ magnétique. Donc, tout va tourner d'un coup. Tandis que là, les vents, il faut qu'il y ait des vitesses différentielles. Jusqu'à quelle profondeur ça va ? On n'en a pas la moindre idée. Et comme on n'en a pas la moindre idée, c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui génère ces vents-là aussi.
Vous parlez, vous venez de faire aussi une brève comparaison entre Uranus et Neptune. J'ai lu en préparant cette émission, ce qui est assez drôle, c'est que Uranus est plus froide que Neptune alors qu'elle est moins loin. Comment ça s'explique ça ?
Ça s'explique parce que Uranus, toutes les planètes géantes sauf Uranus ont une source d'énergie interne. Et que sur Neptune, en fait, la source d'énergie interne est quasiment aussi importante que l'énergie solaire qu'elle reçoit. Par contre, la source d'énergie interne d'Uranus est quasiment nulle, en tout cas, enfin, dans l'intérieur des barres d'erreur, elle est nulle. Et donc, il y a moins d'énergie et donc c'est plus froid. Puis ces mondes sont très froids hein, parce que la luminosité, il faut bien se rendre compte que notre œil humain ne verrait rien sur Uranus. Et la luminosité du Soleil à ces distances-là, c'est moins que la pleine Lune hein, sur la nuit.
Rock, Night Flight ou Uranus, car nous survolons Uranus depuis les studios de France Culture à 16h32. On explore la géante de glace avec nos deux invités du jour, Léa Gritton, maîtresse de conférence à Sorbonne Université et chercheuse au Lésia, à l'Observatoire de Paris, et avec Thierry Fouché, professeur à Sorbonne Université et chercheur au Lésia, à l'Observatoire de Paris. Alors nous dressons une sorte de portrait robot de cette planète très lointaine. Parmi ses particularités, il y a également son système d'anneaux découvert depuis la Terre en 1977. Qu'est-ce que c'est que ce système d'anneaux, Léa Gritton ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que Saturne qui a des anneaux. En fait, oui, ils sont très très beaux, ils sont très très grands. Mais toutes les planètes géantes ont des anneaux et donc Uranus n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, William Herschel avait écrit de son vivant que Uranus devait avoir des anneaux, même s'il n'avait pas pu les observer. Et donc, en 1977, on les a observés pour la première fois par la méthode du transit. Et donc ça, c'est une méthode que peut-être les auditeurs connaissent, parce que c'est comme ça aussi qu'on détecte les exoplanètes, par exemple. Et donc, l'idée, c'est qu'on attend qu'Uranus passe devant une étoile et on se rend compte que la lumière baisse avant que la planète ne passe. Et elle baisse symétriquement. Enfin, de manière symétrique, je sais que c'est symétriquement, elle baisse de manière symétrique avant et après, et donc on imagine qu'il y a des anneaux autour d'Uranus à ce moment-là. Je ne sais pas si tu veux compléter.
Thierry Fouché, Thierry. sur ce système d'anneaux.
Oui, alors il y a moins de masse que sur Saturne, c'est clair, il est plus petit. Il est néanmoins très intéressant. Il est beaucoup plus. Les anneaux sont beaucoup plus petits, étroits en rayon. Et donc, pourquoi ça, on ne comprend pas bien encore. Donc, comment confiner des anneaux, c'est un grand problème. Et donc, on parle souvent des satellites Berger. Donc, ces satellites Berger, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la limite des anneaux, ils se font dû à l'interaction gravitationnelle entre un satellite et l'endroit des anneaux. La poussière ne peut pas aller plus loin parce que le satellite va la repousser à l'intérieur des anneaux. Ou alors, si elle sort, elle va complètement s'échapper. Et donc, on comprend la position des anneaux grâce aux satellites que l'on connaît. On en connaît 27. Mais il y a aussi certaines frontières d'anneaux qu'on ne comprend pas. Et donc, on suspecte qu'il y a des satellites que nous n'avons pas encore découverts qui seraient bloqués à l'intérieur entre les anneaux. Et ça serait quelque chose à chercher avec une sonde.
C'est 27 satellites, on a quelques images en basse résolution, quelles sont leurs propriétés?
Alors, sont principalement il y en a toutes tailles, donc les plus gros avaient été découverts par RHL, en fait, environ 800 km, après on va vers des diamètres de plus en plus petits, quelques centaines de kilomètres, après quelques dizaines de kilomètres. Ce sont principalement des mondes glacés, donc là on parle de glace d'eau, et puis encore d'autres glaces, de glace d'ammoniac, et ainsi de suite. On aimerait bien comprendre comment ils se sont formés. Ils ont permis à aider William Herschel à comprendre que, enfin pas Herschel, mais à comprendre que Uranus était incliné sur son arc. On en parlera tout à l'heure, parce que effectivement, on les voit sur le plan équatorial, on les voit face à nous comme ça. On voit que Uranus est planché. Et puis, ce qui nous intéresse maintenant spécifiquement, et une raison pour laquelle retourner vers Uranus, c'est qu'on s'est découvert que cette satellite glacée autour de Saturne, souvent avait peut-être de l'eau liquide. De l'eau liquide. On se pose la question et on voit beaucoup de structures géologiques à la surface des satellites qui font suspecter qu'il pourrait aussi avoir de l'eau liquide, en tout cas une activité récente à la surface de ces satellites.
Oui, c'est ça, des océans cachés sous la coquille glacée des satellites de Titania et Oberon.
Oui, alors ça moi je travaille pas là-dessus dans mes recherches, mais comme vous dites, Titania et Oberon, moi c'est quelque chose que j'adore sur Uranus. C'est que comme c'est donc une planète découverte par un Britannique, à l'époque, il nomme les premiers satellites qu'il observe avec des personnages du songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Alors moi, j'adore cette pièce de théâtre. Et donc, grâce à ça, ensuite, on a nommé tous les satellites d'Uranus avec des personnages de Shakespeare. Heureusement, il y en a beaucoup. On a encore une liste à disposition. Et donc, vous avez, par exemple, Roméo et Juliette qui tournent autour d'Uranus. Moi, je trouve ça absolument magnifique.
En effet, c'est des satellites qui ressemblent presque à des planètes telluriques, à Oberon et Titiana. C'est des toutes petites lunes comme la nôtre.
Oui, et puis en plus, alors je ne sais plus si c'est exactement sur celle-ci ou sur Ariel, justement, mais je sais que, justement, dans les rapports là, pour la future mission, les scientifiques parlent de... Même peut-être, oui, donc comme... Enfin, je ne sais plus si tu l'as dit, mais d'indices qui pourraient être très importants pour comprendre l'origine du système solaire et aussi donc, les matériaux qui ont pu contribuer à la vie. Un peu comme quand on a étudié Rosetta, par exemple, la mission Rosetta autour d'une comète. Et donc, ce sont des lunes qui sont des lunes, donc comme pour la lune de la Terre, quoi, des corps rocheux qui tournent autour de solides sur lesquels on pourrait se poser.
Ouais. On pense ça parce qu'en fait, ces lunes, on pense que vraiment que le système est resté relativement intact, peut-être qu'il a un peu évolué tout de même, mais qu'il aurait été relativement intact depuis la formation, donc depuis Uranus, donc il pourrait conserver du matériau primitif depuis cette formation. Contrairement à d'autres systèmes comme Neptune, où il y a un outlier qui est devenu tout perturbé, c'est Triton, et puis sur Saturne, ou peut-être finalement, les lunes sont peut-être récentes, parce qu'elles auraient pu être générées par les anneaux.
Alors ces lunes qui évoluent sur le même plan incliné de cette planète, parce que c'est une des particularités d'Uranus, toutes les planètes du système solaire ont un axe de rotation proche de la verticalité, toutes sauf une, la planète Uranus. La façon qu'a Uranus de tourner sur elle-même n'est pas banale. Pour mieux comprendre cette curiosité, rendez-vous à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, avec vous, Noémie Naguet de Saint-Vulfran. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, j'ai rencontré Mélène Sayenfe et Gwenaël Boué qui s'intéressent à Uranus et à son obliquité. L'obliquité, on peut faire l'analogie avec une toupie qui tourne sur une table. Elle tourne sur elle-même avec une certaine vitesse qu'on appelle vitesse de précession. Mais elle ne tourne pas exactement à la verticale par rapport à la perpendiculaire à la table. Elle tourne avec un certain angle et c'est cet angle qu'on appelle l'obliquité. Si on généralise maintenant tout ça à une planète, le plan de la table devient le plan de l'orbite de la planète, l'axe de la toupie devient son axe de rotation et le cône décrit par le mouvement de rotation est appelé mouvement de précession. Pour Uranus, c'est la seule planète géante du système solaire qui est inclinée de 98 degrés, alors que pour les autres, on a une obliquité inférieure à 30 degrés. Autrement dit, Uranus tourne quasiment à l'horizontale. Mystère.
Pour qu'il y ait basculement, il faut qu'il y ait une des fréquences qui évolue. Soit la fréquence orbitale, soit la fréquence de précession de l'axe de rotation. Au début de l'histoire du système solaire, les planètes étaient très proches, elles se sont éloignées les unes des autres et les fréquences de précession orbitale ont diminué progressivement. Et donc si ces vitesses orbitales étaient plus rapides initialement que la vitesse de précession de la planète, alors à un moment en ralentissant, elles sont arrivées à la même vitesse que la vitesse de précession de la planète, ce qu'on appelle une capture en résonance, et pour garder cette résonance, la planète a basculé. Donc on pouvait avoir un mécanisme qui permettait de basculer Uranus. Seulement voilà, Uranus n'a pas ce gros satellite que j'ai rajouté dans mon modèle, donc il a fallu l'enlever ce satellite. De fait, je n'ai fait qu'une seule hypothèse qui était la suivante. Pour expliquer l'agitation des orbites des planètes géantes du système solaire qu'on observe actuellement, ce qu'on appelle les excentricités, les chercheurs de l'équipe d'Alessandro Morbidelli-Yannis ont montré qu'il devait y avoir une rencontre proche entre deux planètes géantes pour exciter un peu les orbites. S'il y a une rencontre proche entre Uranus et une autre planète géante du système solaire, alors cette rencontre proche a pu éjecter le satellite qu'on n'observe pas aujourd'hui.
Ce modèle, pour fonctionner, a besoin que les inclinaisons des orbites des planètes, et en particulier d'Uranus, soient très élevées pendant l'inclinaison de l'axe. Ce cas de figure a très peu de probabilité de se produire dans les modèles d'évolution du système solaire juste après sa formation. Il a donc fallu revoir ce scénario et voir s'il n'y avait pas un autre élément qui pouvait permettre d'expliquer l'obliquité d'Uranus, mais donc pas pendant la migration planétaire, un autre moment dans l'évolution du système solaire.
Ça aurait eu lieu quand, du coup ?
Le système solaire, même quand on l'observe à l'heure actuelle, il n'est pas fixe du tout. Et en particulier, on voit que les satellites des planètes géantes n'ont pas des orbites statiques, mais ils migrent au cours du temps. Les satellites de Saturne s'éloignent progressivement de Saturne, et c'est des processus qui durent sur des milliards d'années. Donc dans le cadre de Saturne, nous avons pu montrer que en raison de l'élargissement des orbites des satellites, eh bien, l'axe de Saturne bascule. Est-ce que ce même phénomène pourrait basculer l'axe d'Uranus ? Ça veut dire que l'axe d'Uranus aurait pu basculer beaucoup plus récemment que ce qu'on pensait, il y a un milliard d'années peut-être, ou quelques centaines de millions d'années. Nous avons aussi besoin d'un satellite, mais le mécanisme est très différent de ce qu'a expliqué Gwenaël. Maintenant, c'est le satellite en migrant, au fur et à mesure que son orbite devient de plus en plus grande, il accélère progressivement la vitesse de rotation. Donc ça permet, à un certain moment, que cette vitesse de rotation devienne égale à la vitesse de précession de l'orbite. D'accord ? Donc il y a de nouveau ce phénomène de résonance. Et l'axe bascule au fur et à mesure que le temps passe. Une fois que l'axe de rotation atteint une obliquité de 70 à 80 degrés, le satellite devient instable. L'orbite du satellite se déforme à tel point que le satellite peut entrer en collision avec la planète.
En termes de caractéristiques, quelle taille et quelle masse doit avoir cette ancienne lune hypothétique pour que votre modèle puisse tenir ?
Si cette lune a une masse égale à 4 fois la masse des satellites actuels, alors ce mécanisme peut se produire. Cependant, afin de maximiser la probabilité que ce mécanisme se produise, il faut que ce satellite soit plus massif, avec une masse plutôt de l'ordre de la masse de Ganymède, qui est une lune de Jupiter. Et lui donner cette masse, ça veut dire que la probabilité d'obtenir l'obliquité d'Uranus peut dépasser les 80%.
Quels sont les outils que vous avez utilisés pour développer ce modèle ?
L'outil principal que nous pouvons utiliser, c'est les simulations numériques. Je peux vous illustrer cette méthode en vous montrant une de ces simulations qui décrit donc l'évolution d'Uranus et de son satellite hypothétique au cours du temps. Nous pouvons voir ici deux graphes. D'abord, la valeur de l'obliquité de la planète au cours du temps. Donc pour l'instant, le graphe est vide, la simulation n'est pas commencée. Et le graphe du dessous montre l'excentricité de cette lune hypothétique. L'excentricité est en fait comme une indication de sa stabilité. Si l'excentricité est voisine de zéro, la Lune a une orbite circulaire et elle est très stable. Si au contraire l'excentricité devient très importante, la Lune a une orbite très allongée et lorsque l'excentricité rejoint une valeur voisine de 1, alors une collision peut se produire sur la planète.
Si on lance cette simulation, qu'est-ce que ça donne ?
On voit l'obliquité qui commence à augmenter, nous avons eu cette capture en résonance. Et en bas, la courbe bleue montre l'évolution de l'excentricité du satellite. Donc au fur et à mesure que l'obliquité augmente, nous nous rapprochons de cette zone instable. Dès que le système entre dans cette région instable, le satellite est brutalement déstabilisé. Et là, il s'est passé un événement important dans la simulation. Le satellite a atteint une excentricité tellement importante qu'il s'est écrasé sur Uranus. Donc on voit la courbe du satellite s'est arrêtée. Et en revanche, l'obliquité d'Uranus garde une valeur constante qui, dans cet exemple, est pratiquement égale à l'obliquité d'Uranus. Ce qui nous occupe actuellement, c'est de savoir si réellement Uranus a pu avoir un satellite aussi massif. Envoyer une mission vers Uranus permettrait de mesurer très précisément la vitesse de migration des satellites actuels. Et si on voit que ces satellites actuels migrent très rapidement, comme les satellites de Saturne par exemple, eh bien ça apporterait une indication indirecte sur ce qu'il a pu se produire. S'ils migrent très rapidement, alors ça veut dire qu'ils ont pu se former beaucoup plus proche d'Uranus, à partir des débris de cette ancienne lune hypothétique. Et à l'inverse, s'ils migrent très lentement, ça veut dire qu'ils se sont sans doute formés là où ils sont actuellement. Et donc dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il faut que durant la collision de l'ancienne lune hypothétique, ça ne perturbe pas trop les satellites actuels. Donc ça pose des problèmes de dynamique orbitale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible?
Merci Noémie Maguet de Saint-Vulfranc pour ce reportage. Une réaction, Léa Gritton?
Moi, je travaille aussi avec des simulations numériques, donc c'est assez intéressant de voir ce travail d'enquêteur presque à la Sherlock Holmes où on doit imaginer des scénarios même qui peuvent nous paraître fous parce qu'en fait on a du coup, comme je le disais au début, aucune idée on a très peu d'idées de ce qui a pu se passer. Et donc ça, c'est vraiment le côté un peu artistique de l'astrophysique, de l'astronomie, c'est qu'on doit imaginer des scénarios, les tester, évidemment, mettre dans l'ordinateur les bonnes équations, les bons chiffres, et ensuite regarder si c'est possible ou pas. Donc ça, c'est un travail que moi j'adore faire, mais qui nécessite un état d'esprit, d'avoir une très grande ouverture d'esprit, justement, pour se préparer à tout ce qu'on peut découvrir.
Thierry Fouché, sur ce reportage à propos des hypothèses pour expliquer cette obliquité.
Alors, Mélène montre aussi très bien que ça peut se généraliser aux exoplanètes. Donc, on va pouvoir parler d'Uranus avec les exoplanètes, puisqu'on observe un certain nombre d'exoplanètes apparaissent beaucoup plus grosses et peu denses quand elles passent devant leur étoile par rapport à ce qu'on peut imaginer. Donc on peut mesurer la masse d'une planète en regardant comment elle fait bouger son propre étoile par vélocimétrie radiale. On peut regarder en transit, quand elle passe devant son étoile, son volume, son rayon et donc son volume. Et puis à partir de là, on peut calculer la densité quand on a les deux. Et il y a un certain nombre d'exoplanètes qui ont des densités extrêmement faibles, qui seraient des densités qu'on n'arrive pas à imaginer avec des gaz. Et une explication de Mélène, c'est qu'effectivement, il faut trouver. Ces exoplanètes auraient des anneaux et seraient inclinées, couchées sur leur orbite comme les Uranus. Donc par exemple, vous prenez Saturne, vous la couchez sur l'orbite et quand elle passe devant le Soleil, derrière, vous avez l'impression qu'il y a une énorme planète. Et donc, il faut trouver le mécanisme pour la coucher sur l'orbite. Donc le mécanisme de Mélène, si plein d'exoplanètes ont aussi perdu un satellite et leur côté satellitaire, ça peut permettre d'expliquer un certain nombre d'exoplanètes beaucoup plus grosses, dilatées, qu'on observe. Donc,
Léa Gritton, on n'a pas parlé d'ailleurs de cette découverte. Comment a-t-on découvert cette curiosité, qui est cet axe de rotation unique dans le système solaire?
En fait, on l'a découvert justement assez tôt après la découverte, puisque Herschel, de son vivant, avait pu observer les quatre plus gros satellites d'Uranus. Et donc, en fait, quand vous regardez, par exemple, les satellites de Jupiter, vous voyez, c'est le dessin très connu de Galilée qui les a vus en premier. Donc, vous voyez la planète et puis vous voyez des petites étoiles, comme des petites étoiles, mais qui sont bien alignées à peu près au niveau de l'équateur de Jupiter. Et donc, vous les voyez disparaître ou réapparaître en fonction de comment ils tournent autour de la planète. Et là, les satellites d'Uranus, en fait, eux, ils tournent vraiment autour, sans image, là vous voyez pas, je fais des gestes, ça sert à rien, mais grosso modo, il tourne, vous voyez la planète, et puis c'est comme si les petites étoiles, vous les voyez tourner autour. Donc on a bien vu que... Alors après, il y a un Français célèbre, hein, Monsieur Laplace, qui avait montré que sur le plan de la dynamique, c'était impossible que les satellites tournent de cette façon si l'axe de rotation n'était pas au centre des satellites. Et donc c'est comme ça qu'on a su assez vite qu'il avait basculé. Après aussi, ce qui est génial avec cet axe penché, c'est que ça a aussi posé énormément de questions sur le rôle des impacts géants dans l'histoire du système solaire, puisque une autre explication que celle expliquée dans le reportage consisterait à... Alors pareil, on ne sait pas du tout qui a raison, c'est pas là la question forcément, mais qui aurait fait, donc un impact géant qui aurait fait basculer Uranus, qui aurait pu peut-être aussi expliquer la bizarrerie de son champ magnétique et aussi de sa composition par exemple.
Alors là, on vient de parler hein, des singularités principales d'Uranus, ses anneaux, son inclinaison axiale. On dit aussi qu'Uranus possède le champ magnétique le plus exotique du système solaire, après le Soleil. Alors, avant de parler de cette particularité, qu'est-ce que c'est déjà un champ magnétique et quelle est la particularité de celui d'Uranus, Griton ?
Alors un champ en physique, c'est déjà le champ, tout court. C'est une propriété de l'espace qui fait que pour certains objets, dans cet espace-là, vont être soumis à des forces invisibles qui vont affecter leur mouvement. Donc le champ gravitationnel qu'on connaît tous, ça s'applique aux objets qui ont une masse. Et donc, par exemple, sur la Terre, il est dirigé vers le centre de la Terre. Hein, ça, c'est, là, on s'en rend pas compte, mais on est tous affectés par ce champ gravitationnel. Et donc le champ magnétique, lui, il s'applique non pas aux objets qui ont une masse, mais aux objets qui ont une charge électrique. Et donc, par exemple, dans les matériaux aimantés, en fait, on s'en rend pas compte, mais ce sont des matériaux qui, à l'échelle microscopique, possèdent de tout petits courants électriques. Et donc, c'est pour ça qu'ils réagissent au champ magnétique qu'ils en forment. Et donc, par exemple, que vous pouvez coller un magnète sur votre réfrigérateur parce qu'il va être plus attiré par la force du réfrigérateur que par la force de gravitation. Donc là, je suis pas du tout en train de dire qu'Uranus est un aimant géant, mais grosso modo, de par la matière à l'état, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, la matière à l'intérieur d'Uranus, elle est sans doute en partie ionisée. Ça veut dire qu'on a des atomes auxquels les électrons ont été arrachés et qui sont un peu mélangés dans une grosse soupe de particules moins et de particules plus. Et grosso modo, ça génère des courants électriques qui peuvent générer des champs magnétiques très puissants. Et donc celui d'Uranus, effectivement, est très exotique. Alors après, on l'a mesuré donc qu'une fois sur place, en quelques heures.
Grâce à Voyager 2.
Grâce à Voyager 2. Tout à l'heure, on a mentionné les découvertes qu'on a pu faire depuis Voyager 2, depuis la Terre. Justement, une des grandes observations qu'on a pu faire, grâce au Hubble Space Telescope, ça a été la mesure des aurores.
Aurores polaires sur Uranus. On arrive à la fin de cette émission, mais pour finir, à quoi ça ressemble une aurore polaire sur Uranus?
Bah là, en l'occurrence, donc c'est un article de mon collègue Laurent Lamy de notre laboratoire. C'est des pixels qui s'allument donc sur une image du Hubble Space Telescope, mais ça nous permet de retrouver l'ovale aurorale et donc l'axe magnétique comme il était en 2014. Et donc ça nous donne deux points de mesure, 1986 et 2014. Et donc à partir de là, voilà, moi j'ai fait des simulations où j'ai mis cet axe magnétique penché sur une planète. Je l'ai fait tourner vite parce qu'Uranus, on l'a pas vraiment dit, mais elle tourne en 17 heures, donc c'est quand même très rapide. Comme c'est une planète géante, bah ça tourne d'autant plus vite, ce champ magnétique. Et donc quand le vent solaire lui arrive dessus avec ses propres particules électriques, des électrons et des protons en l'occurrence, ça crée un univers de plasma, donc cet état de la matière qu'on connaît très peu sur Terre, qui est très dynamique, qui dépend tout le temps du temps, et donc c'est ça qui nous reste à découvrir avec cette sonde spatiale aussi, c'est cet univers dynamique de champs magnétiques et de plasma.
Ah, merci, merci à vous deux, hein, pour ce voyage aux confins de notre système solaire. Cela donne hâte d'être en 2044 pour connaître ces nouvelles découvertes. Mais nous sommes en 2022. Il est l'heure de retrouver Étienne Klein et sa chronique, Le pourquoi du comment.
Le pourquoi du comment de la masse. Aujourd'hui, quand la masse ne fait plus le poids. Dans la vie courante, nous luttons à chaque instant contre la loi de la gravité qui est sévère et nous faisons spontanément de cette force l'arbitre de l'orientation de l'espace qui nous entoure. C'est la direction de notre poids qui polarise l'espace, en rendant la dimension verticale plus essentielle que la dimension horizontale. La gravité oriente également notre corps. C'est surtout vrai pour les alpinistes, qui ne sentent pas leur poids de la même façon selon qu'ils ont les pieds posés sur quelques prises offertes par la paroi ou selon qu'ils sont suspendus dans le vide par les mains. La hantise suprême des montagnards, c'est bien sûr la chute. La chute dans le vide, comme on dit. Alors même que le vide qui est sous eux, et qu'ils nomment parfois le gaz, est beaucoup plus plein que celui qui est au-dessus d'eux. En somme, on appelle vide non ce qui est vide, mais le petit volume d'espace qui ne manque pas d'air que les alpinistes surplombent et dans quoi ils peuvent tomber. On voit par là que même notre vocabulaire se trouve comme courbé par la gravitation. Gravitation, courbure, voilà des mots qui nous mènent bien sûr à Einstein. Un jour de 1907, le futur père de la théorie de la relativité générale eut l'idée dont il dira plus tard qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Il comprit d'un coup que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. Elle ne sentira pas son propre poids, qu'est-ce à dire ? Que si nous tombions en chute libre, c'est-à-dire dans le vrai vide, c'est-à-dire dans un milieu n'offrant aucune résistance à notre chute, tous les objets proches de nous, par exemple notre piolet, chuteraient exactement à la même vitesse que nous, comme l'avait compris Galilée. Nous les verrions non pas tomber, mais léviter au même niveau que nous, flottant exactement comme s'ils n'avaient plus de poids. Nous-mêmes ne sentirions plus le nôtre, comme si l'accélération de notre chute annulait la pesanteur qui pourtant la provoque. Ce que comprit là Einstein, c'est que subir la gravitation sans être arrêté par le sol sous nos pieds nous met paradoxalement en état d'impesanteur. L'impesanteur n'est donc pas l'absence de pesanteur, mais l'absence de tout ressenti de la pesanteur. Lorsque rien ne vient plus s'y opposer ou s'y ajouter, elle nous devient imperceptible. Conclusion. On ne sent pas son poids si l'on n'est soumis qu'à son poids. Ou pour le dire autrement, la chute des corps, lorsqu'on la subit, met la gravitation hors du spectacle, qui est au demeurant son anagramme, qui tombe bien pour le coup. L'un des miracles de notre époque tient en ce qu'elle offre la possibilité non pas d'effectuer une chute libre dans un vrai vide, ce qui serait possiblement mortel, mais de participer à un vol dit « zéro-g », aussi appelé vol parabolique, qui permet de vivre pendant un certain temps en impesanteur. Le principe d'un tel vol est de reproduire une trajectoire la plus proche possible de la parabole qui serait décrite dans le vide par un objet lancé à la même vitesse que l'avion. L'avion vole tout d'abord à une altitude de 6000 mètres à vitesse constante, puis se cabre et s'incline de plus en plus vers le haut. Lorsque l'angle atteint 47 degrés par rapport à l'horizontale, le pilote coupe les gaz, l'avion continue de s'élever pendant 12 secondes selon une trajectoire parabolique, atteint son altitude maximale, puis entame sa descente. Au bout de 12 secondes de descente, le pilote remet les gaz et incline progressivement l'avion pour qu'il retrouve une trajectoire horizontale. Pendant 24 secondes au total, donc, 12 de montée puis 12 de descente, l'avion se trouve soumis à son seul poids, il est donc en chute libre avec ses passagers qui sont en impesanteur. Preuve manifeste qu'à rebours du sens des mots, on peut, pendant la phase de montée, s'élever dans les airs tout en étant en chute libre. Par ailleurs, la symétrie parfaite entre la phase de montée et celle de descente fait penser à ce fragment d'Héraclite. « Le chemin ascendant et descendant, dit-il, sont un et le même. » Ou à ce vers de Victor Hugo dans le seuil du gouffre, « Attend l'ascension suprême de la chute. » Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Merci Étienne Klein et merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Garance Prima Agnolo, Natacha Demoule, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.